Soir Week-end.
Wendy Bouchard.
Les grandes voix.
Il est 18h35, c'est votre rendez-vous du week-end. On débat jusqu'à 19h avec nous ce soir. Laetitia Krupa, Aurélie Herbemont, toutes deux journalistes politiques. Bonsoir mesdames.
Bonsoir. Bonsoir.
Philippe Moreau-Chevrolet, prof à Sciences Po, spécialiste de communication politique, est avec nous aussi. Bonsoir Philippe.
Bonsoir.
La guerre reprend entre deux anciens présidents par médias interposés, Nicolas Sarkozy contre François Hollande. François Hollande qui défend l'intégrité du parquet national financier et réagit à l'attaque en règle de son prédécesseur, lequel ne sera pas candidat en 2022. Les choses sont claires maintenant. Alors la stratégie à droite, on va y venir avec vos analyses sur le sujet. La vaccination d'ampleur ce week-end en France. Nous étions à Tel Aviv il y a un instant. Du côté de la France, la stratégie change-t-elle clairement de dimension et surtout a-t-on les moyens de nos ambitions pour reprendre une vie presque normale d'ici 4 à 6 semaines? C'est l'horizon qui revient de plus en plus dans les discussions et puis vos vues, lues et entendues, chers amis.
Wendy Bouchard.
Les grandes voix.
Alors hier, en présence de Frédéric Dabi, vous analysiez l'opération communication Laetitia Krupa de Nicolas Sarkozy.
Oui.
À qui avait-il parlé au juste? À un camp qui ne peut plus espérer son retour aux affaires. Il a fermé définitivement la porte à ce retour en 2022. Sous cette forme, du moins, Aurélie Herbemont, on va l'entendre et puis vous réagissez.
Je vous confirme que je n'ai pas la volonté de revenir dans la politique. J'ai tourné la page. J'ai tourné la page de la politique et quand je dis une chose... Je fais toujours ce que je dis. Mais ça ne veut pas dire que j'ai tourné la page de la France.
Ah voilà, sous quelle forme pourrait-il revenir, vous glissiez-vous dans... Il y a un instant, Philippe Moreau-Chevrolet, sous quelle forme, Aurélie Herbemont?
Ah, ce qui est sûr, c'est que Nicolas Sarkozy sera quand même dans le paysage, puisqu'il y a un autre moment de l'interview où il dit qu'il soutiendra un candidat, qu'il expliquera pourquoi et qu'il s'engagera à ce moment-là. Donc Nicolas Sarkozy, pour son avenir personnel comme... retour pour la présidentielle est un peu compromis par cette décision judiciaire, même si, après tout, on ne sait jamais en politique, vous savez, je me garderai bien de dire que quoi que ce soit est définitif. Donc, il va vouloir peser d'une manière ou d'une autre sur la droite, et puis peut-être au-delà, et c'est ça qui inquiète un petit peu les élus, les Républicains, c'est que dans ces interviews qu'il a données cette semaine, Nicolas Sarkozy dit qu'il soutiendra quelqu'un, mais il ne précise pas que ce sera quelqu'un de sa famille politique.
De son camp, on est d'accord. Hein.
Donc, il y a une certaine inquiétude à droite que peut-être Nicolas Sarkozy finirait par soutenir Emmanuel Macron. Ça, c'est une vraie inquiétude des dirigeants de droite parce que Nicolas Sarkozy reste extrêmement populaire dans l'électorat de droite. Sa voix comptera de toute façon. Donc, c'est vrai que les candidats putatifs à droite aimeraient bien au mieux une neutralité bienveillante de sa part, quitte à, si jamais
qu'ils
il ne les soutient pas.
Oui.
Parce qu'il considère en gros que personne ne lui arrive à la cheville dans le personnel politique à droite aujourd'hui. Mais surtout, il voudrait éviter qu'il franchisse le Rubicon en soutenant Emmanuel Macron, ce qui serait un très très mauvais signe pour la droite qui déjà n'est pas en très grande forme.
Bien sûr, ça va s'échauffer justement du côté de ces écuries de droite, Laetitia Krupa, dans le clan Bertrand, dans le clan
évidemment.
Pécresse, ex-LR. Hein. Ils sont sortis de cette famille politique aussi.
Évidemment, mais j'ai quand même une petite question à vous poser parce que nous sommes, nous, journalistes politiques, passionnés hein, par ces calculs, voilà, ces stratégies politiques. Mais quel poids pèse Nicolas Sarkozy encore dans l'électorat de droite? Je ne parle pas de l'appareil LR, l'appareil du parti, c'est différent. Chez les militants, dans la base, est-ce qu'on a calculé, est-ce qu'on peut dire que la voix de Nicolas Sarkozy fera, comme il semble le dire, c'est son storytelling à lui.
Oui, évidemment, un soutien à Emmanuel Macron aurait du poids.
Basculer la balance dans un... Oui, mais quel poids, Wendy? La dernière fois, en 2017, 25% des Français se sont abstenus, 8% ont voté blanc. Donc, quel poids? Enfin, de quoi parle-t-on? Je comprends bien que Nicolas Sarkozy ne veuille pas tirer sa révérence, surtout avec cette image de condamné. Mais, encore une fois, rendez-vous en 2022 pour voir déjà pour qui il appellera à voter et de combien de pourcentage sera suivi son appel.
En tout cas, c'est intéressant hein, pour la stratégie à droite, justement. Hein. On prend la droite dans sa globalité, Philippe Moreau-Chevrolet, parce que chacun des candidats prétendus ou potentiels va commencer vraiment à organiser, pour le coup, son entrée en campagne.
Oui, on peut dire que tout le monde va se réclamer de Nicolas Sarkozy. Alors, les macronistes ont dégainé les premiers, si j'ose dire. Hein. Mais les autres vont essayer de grappiller ce qu'ils peuvent de Sarkozy également. Donc c'est une bonne nouvelle qu'il ait déclaré qu'il ne serait pas candidat parce que ça ouvre le jeu à droite.
Oui.
Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour la droite parce que ça permet d'avoir des candidats au fond. Ça débloque la situation. qui soutiennent Emmanuel Macron. Je ne vois pas très bien qui pourrait soutenir d'autres, surtout vu sa situation judiciaire, pour être tout à fait...
Même s'il a reçu les soutiens après cette condamnation de Xavier Bertrand, de Valérie Pécresse... Ah ben,
tout le monde va
c'est
le soutenir.
Pas ça, ouais,
c'est,
ça. Ouais.
Et c'est l'idée. L'idée
de
c'est
Gérald Darmanin.
Oui.
Le moindre candidat de droite dans le moindre canton pour la moindre réélection va soutenir Nicolas Sarkozy. Parce qu'effectivement,
ils ont peur.
Comme le dit Laetitia, on a peut-être plus un fantasme de ce que serait l'influence de Sarkozy que la réalité. Après, je ne suis pas sûr que quelqu'un qui soit vraiment condamné... Et puis aujourd'hui, il faut quand même que la droite tue le père. Donc moi, si j'ai un conseil au candidat de droite, c'est à la limite maintenant passer à autre chose quand même. Hein. Voilà, surtout avec des condamnations qui sont, il faut le rappeler, parce qu'on a oublié, lourdes.
Ah oui,
d'ailleurs,
historique,
ils le disent,
hein.
Ils le disent à droite. Ils disent que celui qui dépendrait de Nicolas Sarkozy ne serait pas présidentiable. Parce que vous avez raison, Philippe, il faut couper le cordon. Mmh. Il y a un moment, il faut aussi qu'une figure de chef, puisque c'est la tradition à droite, émerge.
Ouais, c'est intéressant. Hein,
il y a un vrai sujet de l'œuf et la poule à droite. C'est, est-ce que c'est parce que Nicolas Sarkozy est toujours dans le paysage qu'aucune autre figure n'arrive à s'imposer réellement comme présidentiable à droite? Ou est-ce que c'est parce que ils sont tous moins bons que lui, parce que des Sarkozy, il y en a un par génération et même pas forcément. Mmh. Et on ne sait pas, voilà, est-ce que c'est lui qui phagocyte et qui un petit peu vampirise la droite et qui fait que personne n'émerge? Ou ben, personne n'émerge parce que personne n'a le niveau de Nicolas Sarkozy dans le cœur de l'électorat. Parce qu'il reste extrêmement populaire. Après, quel impact ça
a?
Pareil, quand vous n'êtes plus en politique, vous êtes toujours beaucoup plus populaire que vous êtes en politique.
Puis la popularité ne fait pas le vote. Hein. La pire nouvelle étant que Carla Bruni a dit que tant qu'il ne serait pas innocenté, elle arrêtait sa carrière de chanteuse. Ça, je pense que ça nous fait comme tous
terriblement... Quelle attaque gratuite. On peut aimer l'artiste.
Mais c'est super, c'est un super fort pour Nicolas Sarkozy.
Vous en parlerez avec Fabien Lecoeuvre tout à l'heure. C'est quelqu'un qui m'a dit que...
En tout cas, non, intéressant aussi, c'est l'influence par ricochet d'un certain nombre d'amis ou de l'entourage de Nicolas Sarkozy. Parlons de Brice Hortefeux. Les révélations de Guillaume Tabar dans le Figaro, elles sont quand même assez étonnantes. Brice Hortefeux qui fera encore un peu la pluie et le beau temps et qui imposerait un peu la parole de Nicolas Sarkozy sur le choix du candidat pour 2022.
Alors, il y a cette interview de Brice Hortefeux hier dans le Figaro où il dit qu'en gros, Nicolas Sarkozy étant hors-jeu de fait pour l'instant, il faudra un scrutin pour choisir le candidat de la droite. Sauf que ça, c'est un drame pour
la
droite.
Primaire.
Christian Jacob et beaucoup de responsables de la droite ne veulent surtout pas entendre parler de refaire une primaire. Ils ont une espèce de peur panique dès qu'on prononce ce mot. D'ailleurs, maintenant, on dit système de départage à droite, parce que vraiment, de 2016, ça les a traumatisés. Et ces dernières semaines, c'est vrai que plus personne n'en parlait trop. Et Christian Jacob pensait avoir un peu tuer le match en disant « Non, mais il y aura un candidat naturel. » Entre parenthèses, il espérait que le candidat naturel ce soit Nicolas Sarkozy, ce qui donc complique un petit peu la donne. Et là, Brice Hortefeux a remis 10 balles dans la machine, pardon de le dire comme ça, sur « Il faudra un système de départage ». Rappelons juste que Xavier Bertrand n'est plus LR, ne veut pas participer à une primaire ou un système de départage. Bruno Retailleau, qui est LR, veut absolument qu'il y ait une primaire. Bref, la droite va encore avoir des semaines, des mois.
Et puis une primaire à droite sans Emmanuel Macron, ça n'a pas de sens.
Et puis Bruno Retailleau, il a juste 1% des intentions de vote.
Et Édouard Philippe dans tout ça.
Et Édouard Philippe, voilà. Il faudrait que Édouard Philippe
en Chevrolet.
Qui, dans un sondage cette semaine, justement, est passé numéro 1 des préférés des électeurs de droite devant Nicolas Sarkozy.
Des Français. Édouard Philippe, votre chouchou, Alicia
Colombo.
Ah, bah oui, il est bon, Édouard Philippe. Il est bon en communication.
Après, la question, c'est de savoir si Édouard Philippe ne pourrait pas être candidat, non pas parce qu'il aurait une trahison à faire, mais parce que peut-être les événements imposeraient un profil, disons, différent du président actuel.
Ouais, je rappelle juste qu'Édouard Philippe, c'est l'ex-premier ministre qui voulait faire absolument la réforme des retraites, qui a mis je ne sais combien de milliers de personnes dans la rue. Donc on oublie souvent, en fait, les points négatifs, les points noirs. Vous savez, des hommes politiques, sauf que rappelez-vous, Wendy, il ne faudra jamais oublier ça quand il voudra revenir.
Ouais, ça
on est très populaire dès lors qu'on est sorti du jeu.
Exactement.
C'est une règle immuable.
C'est pour ça que si on a un conseil à donner aux politiques, c'est sortez du jeu, vous deviendrez populaire.
À tout de suite avec une autre personnalité qui sort du bois dimanche, alors aujourd'hui qui est populaire peut-être dans son ancien camp. Dans Le Parisien, il s'exprime, François Hollande, et ses quatre vérités, notamment sur le parquet national financier et Sarkozy. À tout de suite.
Europe Soir Weekend. Wendy Bouchard. Les grandes voix.
Les grandes voix d'Europe 1 ce dimanche soir jusqu'à 19h. Aurélie Herbeaumont du service politique d'Europe 1. Laetitia Krupa, journaliste politique, président de MCBG Conseil. Philippe Moreau-Chevrolet, spécialiste de la communication politique, est avec nous. François Hollande et l'opération Bazooka contre Nicolas Sarkozy. Ses critiques contre le PNF qui manquerait d'impartialité, voire qui dysfonctionnerait. Je n'accepte pas les attaques répétées contre la justice. Alors, il sort du bois, il sort de ses gonds, François Hollande. et il remet les points sur les i. C'est lui qui a créé le parquet national financier après l'affaire Cahuzac, Aurélie Herbemont.
Après l'affaire Cahuzac, effectivement, François Hollande va créer le parquet national financier qui donc a un petit peu déclenché les problèmes de Nicolas Sarkozy, même s'il faut le rappeler, et ça, les sarkozistes ont tendance à oublier de le dire, c'est absolument pas le PNF qui a condamné Nicolas Sarkozy.
C'est lui qui fait travail d'enquête, oui.
Ce sont des magistrats indépendants. Mm-hmm. Voilà, tout ça part à la base d'une enquête du PNF, mais ce sont d'autres juges, donc c'est une ligne de défense des sarkozistes qui irrite pour le moins François Hollande. Mais vous savez, de toute façon, la guéguerre entre François Hollande et Nicolas Sarkozy, c'est une histoire qui dure depuis la défaite de Nicolas Sarkozy face à François Hollande. Et vous savez, en fait, ce qui déclenche le ressentiment de Nicolas Sarkozy à l'égard de François Hollande, c'est le jour de la passation de pouvoir. François Hollande rentre dans l'Élysée avec Valérie Trierweiler, tourne les talons, laissant Nicolas Sarkozy retourner dans sa voiture avec Carla Bruni et ne le raccompagne pas. Et ça, je peux vous dire que pour Nicolas Sarkozy, ça a été vécu comme une humiliation.
Oui.
Et ce qui fait que dès que Nicolas Sarkozy peut dire du mal de François Hollande, il dit du mal de François Hollande. Et dès que François Hollande peut dire du mal de Nicolas Sarkozy, il ne se prive pas non plus. Donc tous les deux, donc là c'était à cause du PNF, mais oui. Sinon c'est une espèce de ping-pong intermittent entre les deux.
Oui. Et
depuis
retour,
2012.
Retour à l'envoyeur. Il y a un autre comportement qui a été souligné quand même par François Hollande, c'est le silence coupable du garde des Sceaux dans cette histoire, Éric Dupond-Moretti, qui lui aussi en prend pour son grade.
Oui, le silence d'Éric Dupond-Moretti et d'Emmanuel Macron, parce qu'il inclut aussi dans sa réponse
sur la condamnation
le chef de l'État,
Sarkozy, oui.
En disant qu'effectivement, cela semble à la limite, il comprend Gérald Darmanin qui soutient son ami, parce qu'il dit qu'on ne va pas juger de l'amitié politique, mais effectivement, il accuse le garde des Sceaux d'être resté silencieux, Emmanuel Macron également, Emmanuel Macron qui aurait eu le soir même Nicolas Sarkozy longuement, on l'apprend aussi dans la presse au téléphone, voilà. Est-ce que c'est pour cette histoire de soutien, on n'en sait rien. En tout cas, François Hollande, vous avez raison, cette règle, elle est cette règle de « je sors de la politique, je ne suis jamais aussi présent quand j'y étais ». Est-ce qu'il est aussi populaire, ça, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il a gagné un peu de popularité. En tout cas, il sera sur Twitch. Il s'essaye à Twitch avec Samuel Etienne.
Lui aussi.
Demain soir à 20h. Alors François Hollande, il nous fait tout. Là. Il nous fait tous les médias. Il veut être présent. Il veut être dans le débat.
Ça, c'est intéressant, Philippe Brochet-Rollet. Quel est son impact? On parlait de celui de Nicolas Sarkozy. La portée encore de la parole hollandaise.
Mais vous savez, on finit toujours par regretter les anciens présidents. Au bout d'un certain temps.
Oui. Je pense qu'Hollande... Je ne sais pas si tout le monde pense comme vous. Mais...
Hollande, il y a quand même une qualité qu'il faut lui reconnaître. Il n'a jamais été impliqué dans la moindre affaire de ce genre. Mmh. Et dès qu'il y a eu des affaires, il a sanctionné immédiatement Cahuzac ou autre. Alors, il s'est fait avoir parfois, par Cahuzac notamment, mais il n'a jamais mis la main dans le pot de confiture. Mmh. Donc, quand il est assez crédible, quand il dit « Écoutez, moi, je trouve ça insupportable qu'on attaque la justice. » Et sur le rapport de Macron à Sarkozy sur les déclarations publiques et l'attitude, je serais un tout petit peu plus sévère que vous, Laetitia. Si Darmanin s'exprime pour soutenir Sarkozy, c'est pas sans l'accord de l'Élysée, ça n'existe pas. Donc il y a eu un certain message public passé pour dire « Sarko, on t'aime bien mon chéri, parce qu'on a quand même des élections en 2022 hein ». Voilà.
Voilà, le message est passé par la place Beauvau.
Par Darmanin, qui est plus évident pour faire passer les messages, il est pratique, Darmanin.
Alors, on parlait d'Éric Dupond-Moretti il y a un instant, Laetitia Krupa. Vous avez entendu cette info qui revient d'ailleurs assez régulièrement. Éric Dupond-Moretti a une proposition.
Oui, elle est dans le Point, donc je l'ai lue cette semaine. C'est l'interview du garde des Sceaux dans l'hebdomadaire et son souhait de filmer tous les procès, et non pas, comme c'est le cas aujourd'hui, uniquement les procès pour crimes contre l'humanité ou pour l'histoire, comme par exemple les procès des attentats de 2015 dernièrement. Non, Éric Dupond-Moretti veut filmer tous les procès, et cette mesure sera dans son projet de loi qu'il va présenter normalement à la mi-avril. L'idée, c'est que ces enregistrements soient diffusés à la télévision. Essentiellement. Et c'est en septembre, c'est pas nouveau, c'est en septembre, dans un entretien avec les lecteurs du Parisien, qu'il l'avait évoqué. Il avait dit que c'était pour renforcer la confiance des Français dans la justice. Il avait fait un petit message vidéo sur Facebook d'ailleurs en disant « La justice doit se montrer aux Français, la publicité des débats est une garantie démocratique ». Alors, pour juste comparer, les États-Unis le font depuis très longtemps, depuis 1959.
Oui.
Voilà, c'est une tradition aux États-Unis. Il y a même une chaîne qui est dédiée au procès, Court TV, qui d'ailleurs avait été rendue célèbre en 1994 quand elle avait diffusé l'intégralité du procès d'O.J. Simpson. Là, on remet encore une pièce dans la machine, puisque à partir de demain, les policiers accusés du meurtre de George Floyd vont être jugés à Minneapolis. Et évidemment, les caméras seront là pour filmer minute après minute. Alors, est-ce que la télévision dans les tribunaux sert la démocratie ou sert l'État spectacle? C'est toute la question.
Intéressant, en tout cas, proposition que la justice soit totalement filmée et diffusée, qui revient sur la table, portée par Éric Dupond-Moretti. Un livre à la une qui va tous vous faire réagir, on reste dans la politique. Vous l'avez dévoré en deux jours, ce livre, Aurélie Herbemont. Ça s'appelle La conseillère
d'Olivier Fay, qui est journaliste au Monde et qui raconte l'histoire de Marie-France Garraud. Alors Marie-France Garraud, c'est la quintessence de l'éminence grise en politique, conseillère de Pompidou, Pygmalion de Chirac, une femme intelligente, habile, Machiavel en jupon, selon ses détracteurs. Écoutez bien elle, ce qu'elle dit d'elle-même, détrousseur de cadavres et pilleur de tombes, redoutée car redoutable, au point qu'Édouard Balladur n'a pas voulu témoigner dans ce livre de notre confrère, car il n'a que du mal à dire de cette personne. Marie-France Garraud, conseillère de l'ombre de Jacques Chirac jusqu'à leur séparation politique en 79 sur fond de divergences européennes. Elle dira lui en 85, écoutez, je croyais que Chirac était du marbre dont on fait les statues. En réalité, il est de la faïence dont on fait les bidets. Mais avant
incroyable.
Ça, elle a régenté la vie politique de son poulain. Vie politique, mais pas que. Dans les années 70, c'est une histoire qui n'est pas très connue. Jacques Chirac tombe amoureux d'une journaliste, Jacqueline Chabridon. Et il envisage même...
Ça menace son couple. Hein.
Il envisage même de divorcer de Bernadette pour vivre sa passion avec Jacqueline Chabridon. Eh bien, veto immédiat de Marie-France Garraud, qui va se charger des basses œuvres. Elle va aller voir Jacqueline Chabridon pour rompre à la place de Chirac.
Non.
En fait, elle va dire à cette femme, au nom de la France, renoncez. Alors, Garraud a eu gain de cause.
Oui,
Chirac
oui.
a fini par devenir président des années
Quel
plus
courage.
Tard. Garraud n'est plus dans les parages depuis longtemps à ce moment-là, en 95. Elle n'a pas voté pour ce président qu'elle trouvera décevant. Bref, c'est savoureux à lire si vous aimez... les coulisses de la politique, ça nous replonge au début de la Ve République, mai 68, Pompidou à l'Élysée, les chasses présidentielles à Chambord. Et puis c'est le parcours d'une femme ultra puissante à l'époque, dans un monde quasi exclusivement masculin. Donc ça s'appelle La conseillère d'Olivier Fay, et c'est aux éditions Fayard.
Dont vous nous rappelez aussi qu'elle se présentera en 1980
à l'élection présidentielle. Et elle fera 1,39%.
Voilà.
Je crois.
Mais à fond absolu à son ancien poulain. Des conseillères.
Elle n'a jamais voté pour lui d'ailleurs.
C'est vrai, c'est ça, oui, absolument. Merci pour ce coup de cœur. Des conseillères comme ça ou des conseillers comme ça, on n'en a plus aujourd'hui. Ça, c'est vraiment très années 70. C'est ce système politique-là qui en fomentait.
Des conseillers, on en a toujours aussi
Philippe
peu en fait. C'est ça qui est remarquable. C'est même dans l'entourage d'Emmanuel Macron, il n'y a quasiment que des hommes, énarques, etc. Donc il y a toujours aussi peu de conseillères.
Oui.
Des éminences grises, si, on a toujours. Des gens qui se rêvent comme ça, il y en a toujours.
Mais à ce point, Machiavel.
Mais à ce point, capable de rompre pour la personne. Bon, on a vu récemment que c'était pas, visiblement, il n'y avait pas ce service-là. D'ailleurs, si elle veut lancer ce service, j'ai un paquet de copains et de copines que ça peut intéresser. Marie-France, n'hésite pas, elle lance un site, parce que ça voilà, mais sinon, ça n'existe plus, non. Et heureusement, d'une certaine façon.
Mais elle fait partie de ces figures mythiques, hein,
lorsqu'on
étudie la politique, Laetitia Crepa.
Oui, elle est mythique parce qu'on la connaît, mais pas tant que ça, c'est-à-dire que son nom nous dit quelque chose, mais c'est une femme de l'ombre. Alors, le mystère, forcément, renforce la légende, renforce aussi cette puissance qu'on fantasme tous. Mais vous avez raison, ce petit détail-là, c'est ce qui est révélé de la vie privée d'un président. Parfois, ça fait tout le sel des destins politiques.
Incroyable.
Elle était persuadée que divorcer lui fermerait les portes de l'Élysée. Donc elle a dit
complètement raison, parce que dans les qualis, on a fait des études à droite et les gens continuent à reprocher à Sarkozy son divorce encore aujourd'hui.
Encore
et ça
aujourd'hui.
Fait partie des choses qu'on lui reproche.
Et...
il ne sait pas tenir sa femme, il ne savait pas tenir la France. C'est des choses que j'ai entendues dans des focus groupes.
C'est très moderne,
oui,
comme pensée. Il est 18h55, Philippe Moreau-Chevrelet. On a parlé très régulièrement depuis hier de l'opération injection massive, 220 000 vaccinations hier, sans doute 100 000 aujourd'hui. Vaccination 7 jours sur 7, c'était notre talent d'Achille, hein. On ne vaccinait pas beaucoup le week-end. Emmanuel Macron a été piqué au vif, mais alors voilà, tout ne se passe pas exactement comme on l'aurait souhaité. Il y a quelques zones d'ombre, et notamment ce coup de gueule hier de Jean-Paul Hamon.
Oui, le président de la Fédération des médecins de France, qui était chez vous hier, mais hier, quand vous l'avez reçu, il n'était pas encore au courant de ce qu'il a fait. Il a fait littéralement exploser de colère ce matin chez Christophe Beaugrand. Donc, je ne sais pas si on peut écouter l'extrait.
Sur LCI, écoutez Jean-Paul Hamon.
On a balancé 50 doses de Pfizer hier parce que l'ARS a interdit qu'on les fasse. Pourquoi ?
Pardon, qui a balancé 50 doses ?
Eh bien, à Clamart. À Clamart, ouais.
Au centre de vaccination de Clamart, il y a 50 doses de vaccin Pfizer qui ont été jetées.
On a vacciné 760 personnes. Ouais. Et miracle, on avait les infirmières qui remplissent les seringues depuis des semaines, qui ont l'habitude de manier, ont touché enfin des seringues avec des aiguilles serties qui leur permettaient de ne rien perdre. Et elles l'ont dit tout de suite, triomphante, et d'écouter, regardez, on a fait cette dose. Malheureusement, quelqu'un a prévenu l'ARS qu'on était capable de faire cette dose. Malheureux, n'y touchez pas. On a l'autorisation pour 6 doses. Ne faites pas la 7e.
Voilà. Alors, on comprend la colère. Parce que, je ne sais pas si vous êtes au courant, visiblement, en tout cas, l'ARS locale n'est pas au courant. On manque de doses en France.
Oui, bien d'accord. Hein, d'accord. Ouais.
Les infirmières qui font un travail remarquable parce qu'elles sont équipées aujourd'hui de seringues qu'elles ont demandées depuis des semaines. Mais les seringues sont arrivées. Des seringues capables de récupérer les dernières doses Pfizer. Parce qu'il y a un truc dans les doses, dans les vaccins Pfizer. Il y a une dose un peu cachée, il faut une seringue spéciale pour aller la chercher. Elles réussissent à la récupérer. Elles disent à l'ARS, on aimerait bien l'utiliser cette dose. Et il y a quelqu'un qui se déplace pour dire, non, ce n'est pas dans le protocole, vous jetez les vaccins.
Ouais, ça les rend dingues les soignants, qu'est-ce
mais
que vous voulez
dire ? Mais ça rend dingue tout le monde. Sûr. Moi, si en Israël, il y a un système où on vous prévient par WhatsApp du fait qu'il y a une dose disponible. Voilà, j'ai des amis
mais
qui en ont bénéficié.
Mais pourquoi ? Il faut se poser la question, pourquoi ? Vous savez très bien, Philippe.
Par stupidité. Je ne vois pas d'autre explication.
Non, parce que celui qui aurait peut-être la 7e dose se dirait, ah, moi je suis 7e dose, elle ne sait pas comme la 4e, par exemple.
Non,
vous voyez,
non,
c'est par peur,
non,
c'est ce que disait le monsieur Hamon.
Le protocole ne
pourrait se retourner juridiquement contre celui qui aurait administré
le vaccin. 6 doses. Et si on en administre une 7e, effectivement, il peut y avoir des problèmes parce que le protocole n'est pas respecté.
Exactement.
Et ce que je veux dire par là, c'est que d'abord, il y a d'autres cas où ça s'est produit et ça, c'est la grande peur de Jean-Paul Hamon. Mais ça représente notre façon de traiter cette campagne vaccinale. C'est un monstre administratif. Alors, soit on se réveille et on commence à comprendre qu'il faut en sortir, soit on va finir par mourir de cette administration qui va être plus dangereuse et plus mortelle à la fin que les problèmes qu'on avait au départ. Donc, il
manifestement,
faut se
on en sort. On aimerait hein, que cette dynamique
mais
soit la cadence de demain.
L'interview que vous aviez sur Israël, ce serait tellement bien si
j'entends
on en
bien.
Était à ce niveau de, ouais. de s'inquiéter juste
sans
pour...
absurdiste, voilà. même si tout n'est pas
voilà.
parfait là-bas.
Si on
non
en
plus,
était à s'inquiéter pour des clusters locaux parce qu'on retourne au restaurant et que tout le monde n'est pas vacciné alors qu'il y a 90% de la population qui l'est.
Merci.
Je rêve d'aller en Israël. Adoptez-moi.
Merci. Il y a l'Alia aussi. Hein.
Oui, ben là, je ne suis pas juif, donc l'Alia, c'est aussi cette...
Ah, il y a la conversion d'abord, c'est un peu plus long. Merci
plus long,
beaucoup,
oui.
Philippe Moreau.
Je suis comme chrétien orthodoxe, là, tout ça. Là. Je veux bien Spoutnik 5 si quelqu'un en a.
Philippe Moreau-Chevrolet, merci. Laetitia Krupa, Aurélie Herbemont et son coup de cœur pour la conseillère d'Olivier Faye. Merci infiniment à tous les trois. On vous retrouve la semaine prochaine, 18h30, 19h, les grandes voix d'Europe 1.
Wendy Bouchard, les grandes voix.